Chapitre 4. Gilbert s'abstint toute la matinée du lendemain de quitter l'auberge. Il se fit raconter par Marielle, qui les connaissait toutes, les légendes de la contrée. Plusieurs se rapportaient à l'époque de la domination autrichienne, alors que de grands seigneurs du Saint-Empire étaient venus s'installer dans la comté, apportés en dot par Marguerite de Bourgogne à l'archiduc Philippe le Beau, fils de Charles Quint. La chronique représentait les Hadzen comme de rudes gentilshommes, grands chasseurs, grands querelleurs, peu soucieux d'autre luxe que de celui de leurs armes. Puis était venue la comtesse Hilda, qui s'adonnait à la sorcellerie avec l'aide de son écuyer et de sa suivante arabe, ramenée de Syrie par son époux quand il était revenu de guerroyer contre l'infidèle. Alors, la maison de la forêt avait été le théâtre de scènes diaboliques dont le souvenir s'était transmis à travers les siècles chez les habitants de Claveronne. Si bien qu'aujourd'hui encore, Marielle frissonnait en les racontant à Gilbert. « Et après elle, monsieur, les comtes ne voulurent plus habiter cette maison où mouraient tous leurs jeunes enfants. Ils l'abandonnèrent, ainsi que la forêt, à la surveillance d'un intendant. » Plus d'une fois, ils essayèrent de la vendre, mais personne n'en voulait. Une prédiction assurait que celui qui l'achèterait attirerait sur lui la malédiction qui pèse sur les descendants de la comtesse Hilda. Alors, on ne veut pas se risquer tout de même. Cependant, il me semble que c'est pousser la superstition un peu loin. Eh, monsieur, on ne sait pas. Ces choses-là, ça s'est vu. Ce qui est bien sûr, parce que les anciens l'ont raconté à ceux qui venaient après eux, c'est que les petits-enfants des comtes mouraient tous de la même manière quand ils naissaient à la maison de la forêt. Un mauvais germe de maladie y était peut-être resté sans qu'on s'en doutât. « Je ne sais pas, monsieur, mais pour moi, voyez-vous, c'était la malédiction. » Au début de l'après-midi, Gilbert alla reprendre son poste près du château. La chaleur était plus lourde que la veille, le soleil plus brûlant. Le sacristain, en venant boire ce matin un verre de vin à la licorne d'or, avait prédit un orage pour la soirée. Gilbert pensait, pourvu que le temps ne se gâte pas pour bien des jours. Alors, M. de Cernaille ne sortirait peut-être plus. L'heure passait, la chaleur accablante, le silence rendaient Gilbert somnolent. Il sursauta tout à coup au bruit d'une porte qui se refermait et se redressa en regardant le château. Deux hommes sortaient, un grand vieillard courbé qui s'appuyait sur l'épaule de Bartolo. Tous deux avançaient à petits pas. L'Italien soutenait son maître avec sollicitude. Les yeux du vieillard, encore vifs dans le visage maigre, creusés de rides, se levèrent et regardèrent le ciel qui s'étendait en longues traînées inégales, d'un bleu trop sombre, entre les branches immobiles des sapins. « L'orage ne tardera guère, Bartolo. Nous l'aurons avant cette nuit, monsieur le baron. Giuseppe est-il revenu ? Pas encore, monsieur le baron. On lui a peut-être proposé une autre bonne affaire de commission, c'est ce qui le retarde. » « Ce garçon-là est habile à saisir toutes les occasions, pourvu qu'elles soient honnêtes. » Il s'interrompit brusquement en s'arrêtant net. Un jeune homme venait de sauter sur la route et, se découvrant, disait au baron « Je suis venu vous voir, grand-père. » Le vieillard resta d'abord sans parole. Bartolo, lui aussi, semblait ahuri. Gilbert, maîtrisant son émotion, reprit « C'est moi, grand-père, moi, Gilbert, votre petit-fils. » Bartolo, reprenant un peu sa présence d'esprit, bégaya. « Mais, monsieur, c'est un procédé !» Le vieillard fit deux pas en avant. Ses yeux s'attachaient au jeune visage, fier et loyal. Il dit d'une voix tremblante. « Pourquoi m'arrêtez-vous ainsi? Pourquoi n'êtes-vous pas venu sonner chez moi ?» « Parce que je craignais, grand-père, que vous refusiez de me recevoir. Et moi, je voulais vous voir, je voulais connaître mon aïeul, mon seul parent du côté maternel. Est-ce un crime, cela? Et allez-vous me repousser, parce que j'ai tenu à accomplir ce que je considérais comme un devoir ?» Le vieillard, raidi, le regardait toujours. Ses lèvres, sèches et pâles, tremblaient. Près de lui, Bartolo, blêmissant, glissait vers le jeune homme un sombre regard à l'ombre de ses paupières brunes. Gilbert dit fièrement, « Dois-je m'en aller, grand-père ? Ou bien acceptez-vous de me recevoir ?» Les lèvres s'entr'ouvrirent, laissèrent échapper ces mots. « Non, ne pars pas. Tu ressembles trop à mon fils. Tu es un cernail. À cause de toi, j'oublierai. » Il ouvrit les bras et serra Gilbert contre sa poitrine. Puis, se redressant, il ordonna « Nous rentrons, Bartolo. Allez rouvrir la porte, mon ami. » Il prit le bras de son petit-fils et ce fut ainsi, en soutenant son aïeul, que Gilbert franchit le seuil de cette demeure d'où sa mère avait été pour jamais exilée. Une voûte sombre conduisait à une cour intérieure enserrée entre les bâtiments. À droite se dressait la grande cour carrée. En face de la voûte s'ouvrait l'entrée du corps de logis principal. Bartolo, muet et calme, du moins en apparence, précédait le baron et Gilbert, ouvrait la porte massive, donnant sur un vestibule orné de trophées de chasse, puis celle du salon, pièce immense, aux murs tendus de vieilles tapisseries. Trois portes-fenêtres l'éclairaient. Près de l'une d'elles était assise une petite fille qui lisait. À l'entrée de M. de Cernay et de son petit-fils, elle leva sa mince figure mate et deux yeux noirs, vifs et futés, dévisagèrent l'inconnu. M. de Cernay la désigna son petit-fils. « Rosa, ma filleule, la petite fille de mon excellent intendant et ami, Bartolo Clédini, que voilà !» Et il étendit la main vers l'Italien, qui s'inclina profondément. « Allons, Rosa, viens dire bonjour à mon petit-fils, M. Gilbert de Clercy. » Rosa se leva et vint avec empressement tendre sa main à Gilbert, qui restait froid et hautain. Puis elle dit, d'une voix douce, un peu chantante, « Oh, comme vous devez être content, mon parrain! Et nous aussi nous le sommes, car nous vous aimons tant !» Monsieur de Cernay étendit la main et lui caressa la joue. « Oui, je le sais, ma petite Rosa, tu es une bonne enfant. Va maintenant jouer dans le jardin. Bartolo, vous êtes libre maintenant, puisque je ne fais pas de promenade. » L'intendant s'inclina et sortit avec sa petite fille, tandis que le baron s'asseyait dans un grand fauteuil de tapisserie près d'une table chargée de livres. Il désigna un siège à Gilbert en disant « Mets-toi là, en face de moi, que je te vois bien. » Oui, vraiment, il ne peut exister ressemblance plus frappante. Gilbert, mon fils, avait ce même regard, et lui aussi, Thierry, mon petit Thierry. Gilbert se leva et vint s'asseoir près de l'aïeul sur un tabouret. Sa main prit celle de M. de Cernay, une belle main maigre et ridée, très aristocratique. Écoutez, grand-père, il faut, avant toute chose, que nous parlions de ce qui nous a séparés trop longtemps. Il faut que vous ne conserviez plus rien de ce soupçon qui a tant fait souffrir ma mère. » Le vieillard dit sourdement, « Tu me demandes trop, ce soupçon, je l'ai toujours. Et si je vous assurais qu'à son lit de mort, à cette heure où l'on ne ment pas, ma mère a dit de vous répéter qu'elle ne se reconnaissait coupable que d'une inattention bien pardonnable chez une enfant ?» Monsieur de Cernay resta silencieux un long moment. Ses paupières se fermaient à demi. Il dit enfin « Eh bien oui, je veux le croire. Il n'en reste pas moins que si elle avait surveillé son frère, l'affreuse chose ne se serait pas produite. Grand-père, dites-moi si, en bonne justice, vous deviez, pour cet instant d'oubli, trop naturel à son âge, conserver contre elle un si long grief ?» Il levait sur l'aïeul son calme et profond regard. Monsieur de Cernay mit sa main tremblante sur les cheveux blonds en murmurant « Ah, tu lui ressembles trop. C'est mon Gilbert que je retrouve. Pour l'amour de lui, pour l'amour de toi, j'oublierai tout, j'oublie tout. En me donnant ce petit-fils si bien de notre race, Marguerite a réparé ce qui, autrefois, me l'a fit exiler loin de moi. Ce souvenir ne doit plus nous séparer, Gilbert. Désormais, Cobreterre est ta demeure, au même titre que la maison de ton père. » Gilbert n'avait pas rêvé triomphe si prompt, si complet. M. de Clercy avait eu raison en comptant, comme un tout-puissant appoint, sur cette ressemblance qui faisait de son fils un vrai Cernay. Maintenant, le baron questionnait Gilbert sur sa vie, sur ses études. Il parut charmé lorsque le jeune homme lui dit qu'il était entré l'année précédente à Saint-Cyr avec le numéro 2. « Je suis content que tu sois officier, mon enfant. C'est une des plus belles carrières qui existent. Et je suis persuadé que, dans cette vie, tu feras honneur aux deux nobles races dont tu sors. » Gilbert parla ensuite de son père, qui avait remplacé près de lui, avec tant de délicatesse et de dévouement, la mère trop tôt disparue. Monsieur de Cernay lui dit « Il faudra lui demander de venir te revoir ici. Je serai trop heureux de le connaître. » En vérité, tout s'arrangeait avec une facilité dont s'émerveillait Gilbert. Mais il ne pouvait oublier que l'ennemi était là, dans la place, et qu'il ne se laisserait pas détrôner sans résistance, une résistance sournoise, probablement, la plus terrible de toutes. Le baron demanda « Ton bagage est à la gare, sans doute ?»« Non, grand-père, je suis arrivé hier et je suis descendu à la Licorne d'or. »« Ah oui, chez Marielle et sa fille, de braves femmes. Tout à l'heure, je dirai à Bartolo d'envoyer le valet pour le chercher, car maintenant tu restes ici. On te préparera la chambre de ton grand-père, qui est assez près de la mienne. Mais tu t'ennuieras peut-être dans ma solitude. » « Oh non, grand-père, pensez donc, nous avons un tel arriéré d'affection, de causerie. Vous me raconterez l'histoire de notre famille, vous me parlerez de vous, beaucoup. » Les mains tremblantes caressaient les cheveux de Gilbert et, dans les yeux du vieillard, apparaissait une vive clarté d'émotion. « De moi, ce ne sera guère intéressant, mon petit. Ma vie, depuis des années, est confinée dans ce coin de terre. Je lis, je songe. Triste songerie, comme tu peux le penser. Heureusement, j'ai près de moi le dévouement de mes bons Clédigny. Cette petite Rosa me distrait, elle est intelligente, affectueuse, suffisamment discrète. Et Bartolo est devenu pour moi un ami. » Gilbert se raidit instinctivement. Des mots étaient sur ses lèvres qui les retinrent. Non, il ne fallait pas encore tenter d'ouvrir les yeux de l'aïeul. Ces gens avaient pris trop d'influence sur lui. Bien des jours, beaucoup de patience et d'adresse seraient nécessaires avant que le vieillard comprît la duperie dont il était victime. Vers 4 heures, Rosa parut, apportant la tasse de lait que le baron prenait toujours à 7 heures. Avec des mines câlines, elle la présenta à M. de Cernay. Gilbert remarqua avec quelle recherche elle était vêtue et comme elle semblait à l'aise ici. Quand le jeune homme eut refusé l'offre que lui faisait son grand-père de prendre un rafraîchissement, elle insista, telle une véritable fille de la maison. M. de Cernay lui dit « Va prier ta maman de faire préparer la chambre aux verdures pour M. Gilbert et qu'on envoie Pietro chercher son bagage à la Licorne d'or. » « Oui, mon parrain, ce sera fait tout de suite. » Elle disparut et le baron recommença le panégyrique des Clédigny. Gilbert frémissait d'impatience en l'écoutant. Et tout à coup, une pensée lui vint qu'il exprima tout haut. « Vous n'aviez pas remarqué, grand-père, ma ressemblance avec votre fils et votre petit-fils Thierry sur la photographie que ma pauvre maman vous avait envoyée quand j'avais 6 ans ?»« Une photographie, je ne l'ai jamais reçue, mon enfant. »« Ah, vous ne l'avez pas reçue ?» Gilbert n'ajouta rien, mais il se doutait bien quel sort avait eu le dangereux portrait, intercepté par Bartolo avant d'arriver au destinataire. Allons, la trame était bien ourdie autour du pauvre aïeul. Son petit-fils venait de la déchirer légèrement. Mais il restait beaucoup à faire avant de la détruire dans toutes ses parties.